Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Lectures en liberté, Denis Flageol.
Bonsoir, nous revoici donc ensemble pour la suite du roman de Emily Brontë, Les Hauts de Hurlevent. Comment pouvez-vous dire que je suis dure, méchante enfant gâtée ? S'écria Catherine, stupéfaite de cette assertion déraisonnable. Vous perdez sûrement la tête. Quand ai-je été dure ? Dites-moi. Hier, gémit Isabelle, et maintenant ? Hier ? À quel propos ? Pendant notre promenade dans la lande, vous m'avez dit d'aller où je voudrais pendant que vous flâniez avec M. Heathcliff. « Et c'est ce que vous appelez de la dureté ?» dit Catherine en riant. « Il n'y avait pas là la moindre insinuation que votre compagnie nous gênât. Il nous était bien indifférent que vous fussiez ou non avec nous. Je pensais simplement que la conversation de Heathcliff n'avait rien d'amusant pour vous. »« Oh non !» reprit la jeune fille en pleurant. « Vous vouliez m'éloigner parce que vous saviez que j'avais plaisir à rester. » « Est-elle dans son bon sens ?» demanda Madame Linton en s'adressant à moi. « Je vais vous rapporter notre conversation mot pour mot, Isabelle, et vous m'indiquerez tous les points qui auraient pu vous charmer. »« Peu importe la conversation, je voulais être avec... »« Eh bien ?» dit Catherine en la voyant hésiter à achever sa phrase. « Avec lui. Et je ne veux pas être toujours renvoyée. » continua-t-elle en s'animant. « Vous êtes comme un chien dans sa mangeoire, Cathy, et vous voulez être seule à être aimée. » « Impertinent petit singe !» s'écria Madame Linton, surprise. « Mais je ne puis croire cette bêtise. Il est impossible que vous aspiriez à l'admiration de Heathcliff, que vous le regardiez comme un être agréable. J'espère que je vous ai mal comprise, Isabelle. »
« Non, pas du tout, » répondit Isabelle, donnant libre cours à sa passion. « Je l'aime plus que vous ne l'avez jamais aimé Edgar, et il pourrait m'aimer si vous ne vous y opposiez pas. »
« En ce cas, je ne voudrais pas être à votre place pour un empire, » déclara Catherine avec emphase. Et elle semblait parler sincèrement. « Nelly, aidez-moi à la convaincre de sa folie. Montrez-lui ce qu'est Heathcliff, un être resté sauvage, sans raffinement, sans culture, un désert aride d'ajoncs et de basalte. J'aimerais autant mettre le petit canari que voilà dans ce parc un jour d'hiver que de vous conseiller de lui confier votre cœur. C'est une déplorable ignorance de son caractère, mon enfant, et rien d'autre qui vous a fait entrer ce rêve dans la tête. Je vous en prie, ne vous imaginez pas qu'il cache des trésors de bienveillance et d'affection sous un extérieur sombre. Ce n'est pas un diamant brut. Une huître contenant une perle, c'est un homme féroce, impitoyable, un loup. Je ne lui dis jamais « Laissez en paix tel ou tel de vos ennemis » parce qu'il serait peu généreux ou cruel de lui faire du mal. Je lui dis « Laissez-les en paix » parce qu'il me déplairait extrêmement de leur voir faire tort. Tu vous écraserais comme un œuf de moineau, Isabelle, s'il trouvait en vous un fardeau importun. Je sais qu'il ne peut aimer une Linton. Et pourtant, il serait très capable d'épouser votre fortune et vos espérances. L'avarice devient son péché dominant. Voilà le portrait que je fais de lui. Et je suis son ami. Au point que s'il avait sérieusement songé à vous captiver, j'aurais peut-être retenu ma langue pour vous laisser tomber dans son piège.
Miss Linton regardait sa belle-sœur avec indignation. « quelle honte » répéta-t-elle d'un ton irrité. « Vous êtes pire que 20 ennemis venimeuses amies. » « Ah, vous ne voulez pas me croire alors. Vous pensez que mes paroles sont dictées par un perfide égoïsme. J'en suis certaine et vous me faites horreur. Bon, essayez vous-même si le cœur vous en dit, j'ai fini. » Je ne soutiendrai pas la discussion avec votre insolence effrontée. Et il faut que je souffre à cause de son égoïsme, dit en sanglotant la jeune fille, pendant que Madame Linton quittait la pièce. Tout est contre moi. Elle a empoisonné mon unique consolation. Mais ce qu'elle a dit est faux, n'est-ce pas? Monsieur Heathcliff n'est pas un démon. Il a une âme honnête et droite. Autrement, comment se serait-il souvenu d'elle ? Bannissez-le de vos pensées, miss, dis-je. C'est un oiseau de mauvais augure. Ce n'est pas un parti pour vous. Madame Linton a parlé avec sévérité, et cependant, je ne puis pas la contredire. Elle connaît son cœur mieux que moi-même ou que personne, et elle ne le représenterait jamais comme plus mauvais qu'il n'est. Les honnêtes gens ne cachent pas leurs actions. Comment a-t-il vécu ? Comment est-il devenu riche? Pourquoi séjourne-t-il à Hurlevent chez un homme qu'il déteste? On dit que M. Earnshaw est pire que jamais depuis son arrivée. Ils passent continuellement la nuit ensemble. Hindley a emprunté de l'argent sur sa terre et ne fait que jouer et boire. Il n'y a pas plus d'une semaine, j'ai rencontré Joseph à Gimmerton et je lui ai parlé. Nelly, m'a-t-il dit, ne seront bientôt une enquête du coroner par chez nous. Il y en a un qui a eu le doigt presque arraché en empêchant l'autre s'embrocher comme un viaou. C'est le maître, vous savez, qui est bien capable d'aller devant les grandes assises. Il n'a pas au point du banc des juges, ni de Paul, ni de Pierre, ni de Jean, ni de Mathieu, ni de personne, lui. Il voudrait bien. Il se languit de la défier de son regard affronté. Et ce bon gars de Heathcliff, pensez-vous que c'est un gaillard ordinaire ? Il s'est grimacé un rire comme pas un à une plaisanterie diabolique. « Est-ce qu'il vous raconte jamais rien de la jolie vie qu'il mène quand c'est qu'il vient à la grange ? V'là que c'en est, levé à l'heure que le soleil y se couche, les dés, le brandy, les volets fermés et les chandelles jusqu'au lendemain midi. Alors le fou, il s'en va dans sa chambre en jurant et en hurlant que les honnêtes gens s'en bouchent les oreilles de honte. Et le coquin, il sait compter ses sous et manger et dormir et puis aller chez le voisin pour bavarder avec sa femme, probable, hein, qui raconte à Dame Catherine comment que l'argent de son père y passe dans ses poches à lui et comment que le fils de son père y galope sur la grande route pendant qu'il lui file devant pour ouvrir les barrières. Eh ben, Miss Linton, Joseph est un vieux drôle, mais ce n'est pas un menteur. Et si sa description de la conduite de Heathcliff est exacte, vous ne songeriez jamais à désirer un pareil mari, je pense. Vous vous êtes liguée avec les autres, Hélène, répondit-elle. Je ne veux pas écouter vos médisances. Faut-il que vous soyez malveillante pour vouloir me convaincre qu'il n'y a pas de bonheur en ce monde ? Aurait-elle fini par triompher de ce penchant ? Si elle eût été laissée à elle-même, ou aurait-elle continué d'y céder indéfiniment ? C'est ce que je ne saurais dire. Elle eut peu de temps pour réfléchir. Le lendemain, il y eut une séance de justice à la ville voisine. Mon maître fut obligé d'y assister, et M. Heathcliff, au courant de son absence, arriva plus tôt que d'habitude. Catherine et Isabelle étaient dans la bibliothèque, fâchées l'une contre l'autre, mais silencieuses. Celle-ci, un peu alarmée de sa récente imprudence, inquiète d'avoir révélé ses sentiments intimes dans un accès passager de passion, et celle-là, après mûre considération, réellement irritée contre sa compagne, et si elle riait encore de son impertinence, disposée à n'en pas faire un sujet de plaisanterie avec elle. Elle rit vraiment quand elle vit Heathcliff passer devant la fenêtre. J'étais en train de balayer le foyer et je remarquai sur ses lèvres un sourire méchant. Isabelle, plongée dans ses méditations ou dans un livre, ne bougea pas jusqu'à ce que la porte s'ouvrit. Il était trop tard pour qu'elle essayât de s'enfuir, ce qu'elle aurait volontiers fait si c'eût été possible.
« Entrez, voilà qui est bien !» s'écria gaiement ma maîtresse en avançant une chaise près du feu. Vous voyez deux personnes qui ont bien besoin d'une troisième pour faire fondre la glace entre elles. Et vous êtes précisément celui que nous aurions tous deux choisi. Heathcliff, je suis fier de vous montrer enfin quelqu'un qui raffole de vous plus que moi-même. Je pense que vous vous sentez flatté. Non, ce n'est pas Nelly, inutile de la regarder. Ma pauvre petite belle-sœur est en train de se briser le cœur dans la simple contemplation de votre beauté physique et morale. Vous n'avez qu'à vouloir pour devenir le frère d'Edgar. Non, non, Isabelle, vous ne vous sauverez pas, poursuivit-elle en arrêtant avec un fin enjouement la jeune fille confuse qui s'était levée, indignée. Nous nous querellions à votre sujet comme des chattes, Heathcliff, et j'étais nettement battu en protestation de dévouement et d'admiration. Qui plus est, j'ai été averti que, si je voulais bien avoir le bon goût de me tenir à l'écart, ma rivale, comme elle se qualifie elle-même, vous transpercerait le cœur d'une flèche qui vous fixerait à jamais et qui plongerait mon image dans un éternel oubli. Catherine, dit Isabelle en appelant à son aide sa dignité et dédaignant de lutter pour se dégager de l'énergique étreinte qui la retenait, je vous serai reconnaissante de rester dans la vérité et de ne pas me calomnier même en plaisantant. Monsieur Heathcliff, ayez l'obligeance de demander à votre ami de me lâcher. Elle oublie que vous et moi ne sommes pas des intimes et que ce qui l'amuse est pour moi pénible. Au-delà de toute expression. Comme le visiteur, sans rien répondre, s'asseyait et avait l'air parfaitement indifférent aux sentiments qu'elle pouvait éprouver pour lui, elle se tourna vers sa persécutrice et murmura un pressant appel pour que celle-ci lui rendît sa liberté. Jamais de la vie, s'écria Madame Linton, je ne veux pas être encore traitée de chien devant sa mangeoire. Vous resterez. Et maintenant, Heathcliff, pourquoi ne témoignez-vous pas de satisfaction à mes plaisantes nouvelles? Isabelle jure que l'amour qu'Edgar a pour moi n'est rien en comparaison de celui qu'elle nourrit pour vous. Je suis sûr qu'elle a dit quelque chose comme cela, n'est-ce pas, Isabelle? Elle a jeûné depuis notre promenade d'avant-hier par chagrin et dépit que je l'ai écartée de votre société que je jugeais peu agréable pour elle. Je crois que vous lui prêtez des pensées qu'elle n'a pas, dit Heathcliff, en tournant sa chaise pour leur faire face. Elle désire être débarrassée de ma société en ce moment, en tout cas.
Understand me now. Sometimes I feel a little mad, but don't you know that no one alive can always be an angel? When things go wrong, I seem to be bad. But I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. Sometimes I'm so carefree with a joy that's hard to hide. And sometimes it seems that all I have to do is worry, and then you're bound to see my other side. I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. If I seem edgy, I want you to know that I never mean to take it out on you. Life has its problems and I get my share, and that's one thing I never mean to do, 'cause I love you. Oh, 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 baby, don't you know I'm human? I have thoughts like any other one. Sometimes I find myself long regretting some foolish thing, some little sinful thing I've done. Understood. Yes, I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood.
misunderstood.
Lectures en liberté, Denis Flagel.
Les hauts de Hurlevent, Émilie Brontë. Heathcliff regarda fixement l'objet de la conversation comme on regarderait un animal étrange et repoussant. Une scolopendre des Indes, par exemple, que la curiosité vous pousse à examiner en dépit de l'aversion qu'elle inspire. La pauvre enfant ne put endurer cet examen. Elle pâlit et rougit tour à tour, et tandis que les larmes perlaient sur ses cils, elle appliqua la force de ses doigts frêles à s'affranchir de la ferme étreinte de Catherine. Mais voyant qu'aussitôt qu'elle parvenait à soulever l'un des doigts posés sur son bras, un autre s'abaissait, et qu'elle ne pouvait se débarrasser de tous à la fois, elle se mit à employer ses ongles, dont les pointes ornementèrent bientôt de croissants rouges la main de sa geôlière. « Quelle tigresse !» s'écria Madame Linton en la relâchant et secouant sa main endolorie. « Allez-vous-en, pour l'amour de Dieu, et cachez votre figure de mégère. Quelle folie de révéler ses griffes devant lui! Ne pouvez-vous deviner les conclusions qu'il en tirera? Regardez, Heathcliff, voilà des instruments d'exécution. Prenez garde à vos yeux. Je les arracherai de ses doigts si jamais il me menaçait, répondit-il brutalement quand la porte fut refermée sur elle. Mais quelle était votre intention en agaçant ainsi cette créature, Cathy? Vous ne disiez pas la vérité, n'est-ce pas? Je vous assure que si. Voilà plusieurs semaines qu'elle se meurt d'amour pour vous. Ce matin encore, elle extravaguait à votre sujet et m'accablait d'un déluge d'injures parce que je lui représentais vos défauts en pleine lumière afin de refroidir son adoration. Mais n'y faites plus attention. Je voulais punir son insolence, voilà tout. Je l'aime trop, mon cher Heathcliff, pour vous laisser la saisir entièrement et la dévorer. Mais je l'aime trop peu pour le tenter. Ou ce serait à la manière d'une goule. Vous entendriez parler de choses étranges si je vivais seul avec cette insipide figure de cire. Les plus communes seraient que j'ai peint sur son blanc visage les couleurs de l'arc-en-ciel et que tous les jours ou tous les deux jours j'ai fait passer ses yeux du bleu au noir. Il ressemble d'une manière détestable à ceux de Linton. D'une manière délicieuse, observa Catherine. Ce sont des yeux de colombe, d'ange. Elle est l'héritière de son frère, n'est-ce pas? Demanda-t-il après un court silence. Je regretterais de le croire. Une demi-douzaine de neveux la dépouilleront de ce titre, plaise au ciel. Détournez votre esprit de ce sujet pour le moment. Vous êtes trop enclin à convoiter les biens de votre prochain. Souvenez-vous que les biens de ce prochain-là sont les miens. S'ils étaient les miens, ils n'en seraient pas moins les vôtres. Mais bien qu'Isabelle Linton puisse être sotte, elle n'est cependant pas folle. En résumé, nous écarterons ce sujet comme vous le conseillez. Ils l'écartèrent en effet de leurs propos. Et Catherine, probablement, de ses pensées. L'esprit de l'autre, j'en suis sûr, y revint souvent dans le cours de la soirée. Je le vis se sourire à lui-même, grimacer plutôt, et tomber dans une rêverie de mauvais augure, chaque fois que Madame Linton eut l'occasion de s'absenter de la pièce. Je résolus de surveiller ses mouvements. Mon cœur s'attachait invariablement au parti de mon maître, de préférence à celui de Catherine. Avec raison, pensais-je, car il était bon, loyal, honorable. Et elle, on ne pouvait pas dire qu'elle fût l'opposé, mais pourtant elle semblait se permettre une telle licence que j'avais peu de foi dans ses principes, et encore moins de sympathie pour ses sentiments. Je souhaitais qu'il arrivât quelque chose qui aurait eu pour effet de débarrasser les hauts et la grange de M. Heathcliff sans éclat. nous laissant comme nous étions avant son arrivée. Ses visites étaient un perpétuel cauchemar pour moi, et je le soupçonnais pour mon maître aussi. Son séjour à Hurlevent me causait une oppression inexplicable. Je sentais que Dieu avait abandonné à ses vagabondages pervers la brebis égarée, et qu'une bête malfaisante rôdait entre elle et le bercail, attendant le moment de bondir et de détruire. Parfois, comme je méditais solitairement sur ces choses, je me levais, prise d'une terreur soudaine, et mettais mon chapeau pour aller voir ce qui se passait à Hurlevent. Je me persuadais que c'était un devoir de conscience d'avertir Hindley de ce qu'on disait de son genre de vie. Puis je me rappelais ses mauvaises habitudes invétérées et, désespérant de pouvoir lui être utile, incertaine de réussir à me faire croire sur parole, je renonçais à pénétrer de nouveau dans la lugubre demeure. Une fois, je franchis la vieille barrière en faisant un détour alors que j'allais à Gimmerton. C'était à peu près à l'époque que mon récit a atteinte. L'après-midi était clair et glacial, la terre dénudée, la route dure et sèche. J'arrivais à une borne où un chemin dans la lande s'embranche à gauche sur la grande route. C'est un grossier bloc de grès qui porte gravé les lettres WH sur sa face nord, G sur sa face est et T et G sur sa face sud-ouest. Il sert de poteau indicateur pour la grange, pour les hauts et pour le village. Le soleil teintait de jaune sa tête grise, me rappelant l'été. Je ne sais pourquoi, mais tout à coup, un flot de sensations de mon enfance jaillit dans mon cœur. Hindley et moi affectionnons cet endroit 20 ans plus tôt. Je regardai longuement le bloc usé par le temps. En me baissant, j'aperçus près du pied un trou encore plein de coquilles d'escargots et de cailloux que nous nous amusions à entasser là avec des choses plus périssables. J'eus la vision aussi nette que si elle eût été réelle, du compagnon de mon enfance assis sur l'herbe flétrie, sa tête brune et carrée, penchée en avant et sa petite main creusant la terre avec un morceau d'ardoise. « Pauvre Hindley !» m'écriai-je involontairement. Je tressaillis. Mes yeux eurent un instant l'illusion que l'enfant levait la tête et me regardait en face. L'illusion se dissipa en un clin d'œil, mais je sentis aussitôt un désir irrésistible d'être à Hurlevent. La superstition me pressa de céder à cette impulsion. « S'il était mort, pensais-je, ou s'il allait bientôt mourir ?» Si cette apparition était un présage de mort. À mesure que j'approchais de la maison, mon agitation grandissait. Parvenu en vue d'elle, je tremblais de tous mes membres. L'apparition m'avait devancé. Elle était debout, regardant à travers la barrière. Telle fut ma première idée en apercevant un petit garçon aux boucles emmêlées, aux yeux bruns, qui appuyait son frais visage contre les barreaux. Puis la réflexion me suggéra que ce devait être Harton, mon Harton, pas très changé depuis que je l'avais quitté 10 mois auparavant. « Dieu te bénisse, mon chéri !» m'écriai-je, oubliant instantanément mes craintes folles. « Harton, c'est Nelly, Nelly, ta nourrice !» Il recula hors de portée de mon bras et ramassa un gros silex. « Je suis venu voir ton père, Harton, » ajoutai-je. Je devinais par son geste que si par hasard Nelly vivait encore dans sa mémoire, il ne m'identifiait pas avec elle. Il leva son projectile pour le lancer, je commençai un discours pour l'apaiser. Mais je ne pus arrêter sa main. La pierre frappa mon chapeau, puis des lèvres balbutiantes du petit bonhomme sortit un chapelet de jurons proférés qu'il l'ait compris ou non, avec une énergie qui révélait l'habitude et qui donnait à ses traits enfantins une révoltante expression de méchanceté. Vous pouvez penser que j'en fus plus affligé qu'irrité. Sur le point de pleurer, je tirai de ma poche une orange et la lui offris pour l'amadouer. Il hésita, puis me l'arracha des mains comme s'il s'imaginait que je voulais seulement le tenter et le désappointer. Je lui en montrai une autre, en la tenant hors de son atteinte.
Qui t'a appris ces jolis mots, mon petit ? Demandai-je. Le pasteur.
Le diable emporte le pasteur et toi aussi. Donne-moi ça, répliqua-t-il.
Dis-moi où tu as pris tes leçons et tu l'auras. Qui est ton maître ?
Mon diable de papa.
Et que t'apprend ton papa ?
Il sauta pour attraper le fruit. Je l'ai levé un peu plus haut.
Que t'apprend-il ? Répétai-je.
Rien. Qu'à ne pas me trouver sur son chemin. Papa ne peut pas me souffrir parce que je jure après lui.
Ah, et c'est le diable qui t'apprend à jurer après ton papa.
Oui ?
Non,
grommela-t-il. Qui alors ?
Heathcliff.
Je lui demandai s'il aimait M. Heathcliff.
Oui, répondit-il.
Désirant de connaître les raisons qu'il avait de l'aimer, je ne pus tirer de lui que ces phrases. Je ne sais pas.
Il rend à papa ce que papa me donne. Il injurie papa qui m'injurie. Il dit qu'on doit me laisser faire ce que je veux.
Et le pasteur ne t'apprend donc pas à lire et à écrire ?
Non.
On m'a dit que le pasteur aurait les dents renfoncées dans sa gorge s'il franchissait jamais le seuil. Heathcliff l'a promis.
Je lui mis l'orange dans la main et lui dis de faire savoir à son père qu'une femme du nom de Nelly Dean attendait pour lui parler près de la porte du jardin. Il remonta la chaussée et entra dans la maison. Mais au lieu de Hindley, ce fut Heathcliff qui apparut sur le pas de la porte. Je fis aussitôt demi-tour et redescendis la route en courant de toutes mes forces, sans m'arrêter, jusqu'à ce que j'eusse atteint la borne indicatrice et aussi épouvanté que si j'eusse évoqué un démon. Tout cela n'a pas grand rapport avec l'histoire de Miss Isabelle, sinon que j'en fus incité à la résolution de monter à l'avenir une garde vigilante et de faire tous mes efforts pour empêcher une si mauvaise influence de gagner la grange, même si je devais soulever un orage domestique en contrariant le plaisir de Madame Linton. La première fois que Heathcliff revint, la jeune demoiselle se trouvait dans la cour en train de donner à manger aux pigeons. Elle n'avait pas adressé la parole à sa belle-sœur depuis 3 jours. Mais elle avait également cessé ses plaintes maussades, ce qui était pour nous un grand soulagement. Heathcliff n'avait pas l'habitude de prodiguer à Miss Linton une seule politesse inutile, je le savais. Cette fois, dès qu'il l'aperçut, sa première précaution fut d'inspecter du regard la façade de la maison. Je me tenais près de la fenêtre de la cuisine, mais je me reculai pour n'être pas vu. Il franchit les pavés, s'approcha d'elle et lui dit quelque chose. Elle parut embarrassée et désireuse de s'en aller. Pour l'en empêcher, il lui posa la main sur le bras. Elle détourna le visage. Il lui adressait apparemment une question à laquelle elle ne voulait pas répondre. Il lança rapidement un nouveau regard sur la maison et, pensant que personne ne le voyait, le gredin eut l'impudence de l'embrasser.
Voilà, nous avons terminé pour ce soir donc cet extrait du roman de Emily Brontë, Les Hauts de Hurlevent, que nous retrouverons demain. Cette émission a été réalisée par Frédéric Guyon et vous pouvez la retrouver en podcast sur le site de Bretagne 5, bretagne5.fr. Bonsoir.
Pour écouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur notre site internet bretagne5.fr.